Merci beaucoup pour ce parcours riche que nous avons pu faire grâce à la participation de beaucoup et ces belles perspectives qui nous sont données. Je vous invite à lire un texte qui est une prière de Paul dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, les versets 14 à 20. Éphésiens, chapitre 3, les versets 14 à 20. Je fléchis les genoux devant le Père, dit l'apôtre Paul, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Comment, dans quel état d'esprit, allons-nous aborder cette rentrée et cette nouvelle année scolaire qui est devant nous? Quelle pensée, quelle perspective vont animer notre cœur et fortifier nos mains. Il n'est pas très facile en ce moment de regarder l'actualité. On allume la télé pour les mauvaises nouvelles le plus souvent ou pour des divertissements qui veulent faire échapper aux mauvaises nouvelles. Ou parfois des débats qui analysent et décortiquent les mêmes mauvaises nouvelles. Mais bien peu dans tout cela qui puisse nous tirer en avant et nous enflammer le cœur. Cela pose vraiment la question de nos ressources profondes. Doit-on rester les mains vides et les bras ballants parce que la reprise ne vient pas comme on l'attend? Allons-nous perdre le moral parce qu'autour de nous, beaucoup ne l'ont pas? Ou à l'inverse, allons-nous crâner en disant « j'ai la foi, moi, même pas touché par tout ça », comme si nous habitions quelque part sur une autre planète. J'ose nous proposer de rester plutôt sur la terre. C'est là notre lieu, celui que nous a donné notre Créateur. Il est bon pour nous, ce lieu, même s'il est parfois exigeant, peut-être même parfois décourageant. Alors, qu'est-ce qui peut affermir notre cœur? Qu'est-ce qui peut donner force à nos mains dans ce monde qui est tantôt si horrible et tantôt si joli? Quelle pensée, quelle perspective pour nous accompagner, nous précéder? Si vous avez regardé la feuille de culte et regardé le titre de mon message, vous savez dans quelle direction je veux orienter notre regard. Ce que Dieu peut accomplir. Ce que Dieu peut accomplir. Et s'il y avait là une clé, un ressort, un déclic possible, dans le monde où nous vivons, dans le contexte où nous faisons notre rentrée, il y a toujours, il reste toujours, ce que Dieu peut accomplir. Arrêtons-nous sur cette pensée. Vous en connaissez l'origine. C'est la fin du passage que nous avons lu dans cette épître de Paul aux Éphésiens. À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ce que Dieu peut faire, nous dit l'apôtre Paul, voilà un facteur essentiel, de génération en génération. Crise ou pas de crise, reprise forte ou reprise molle n'affecte pas ce Paul qui demeure ce que Dieu peut faire. Mais ici, j'entends déjà l'un ou l'autre prêt à m'arrêter, à demander une pause Et stop ! Tu nous as invités tout à l'heure à rester sur Terre, à ne pas échapper à la réalité comme si nous appartenions à une autre planète. En effet, c'est ce que j'ai dit. Mais depuis quand est-ce quitter la Terre que de penser que Dieu peut agir sur la Terre et pour la Terre, qu'il peut intervenir sur la Terre et pour la Terre ? Le monde est notre lieu avec ses lois, ses régularités, ses règles de cause à effet. Mais ce monde, parce qu'il a été créé, n'est pas fermé, et surtout pas fermé à son Créateur, à son action, à sa bienveillance. Et nous voilà juste avec ces quelques pensées, en quelques échanges plongés au cœur d'un débat fondamental qui concerne notre manière de voir le monde. Comment voyons-nous notre monde ? La vision dominante autour de nous n'a pas de place pour une intervention extérieure. Tout se passe, tout ce qui se passe dans le monde n'existe que par des causes et des moyens qui appartiennent au monde. Voilà ce que l'on pense partout autour de nous. Mais dire cela, c'est déclarer le monde fermé. C'est le limiter aux lois, aux régularités que découvre et décrit la science. Mais si le monde est créé par Dieu, bien sûr, il y a ces régularités. C'est lui qui les a voulues, c'est lui qui les maintient. Mais elles ne sont pas l'unique mot de l'histoire, car Dieu peut, s'il le désire, agir dans le monde qui est son monde. Il peut se servir pour cela des lois régulières qu'il a mis dans le monde. Il peut aussi injecter du neuf, bousculer, infléchir le cours des choses. Et nous croyons que Dieu a cette liberté-là, liberté d'intervenir, liberté d'agir. Le facteur de ce que Dieu peut faire est tout sauf une quantité négligeable. Alors approchons d'un peu plus près de notre texte pour essayer de préciser les contours de ce que Dieu peut faire. Que découvrons-nous ? Ce que nous découvrons dans notre texte, c'est que ces contours, il ne faut surtout pas trop vouloir les préciser. Et surtout, ne pas les penser à la baisse, ne pas les penser petits. Paul utilise une formule dont lui seul a le secret. Je vais essayer de vous décortiquer cette formule en suivant les étapes qu'on décrit en lisant un peu, en analysant le texte tel que Paul l'a écrit. D'abord, dit Paul, il y a nos conceptions, nos aspirations, ce que nous demandons, ce que nous pensons. Et Paul commence par dire, Dieu peut faire, Dieu peut agir. Autrement dit, il n'est pas oisif, il n'est pas ligoté. Il a la puissance et la liberté de l'action. Paul continue en disant, Dieu peut faire ce que nous demandons. Ce que nous demandons, Dieu peut le faire. Autrement dit, il n'est ni sourd, ni indifférent à nos paroles. Il entend nos prières, il entend nos requêtes. Dieu peut faire également, nous dit Paul, ce que nous pensons. Il connaît nos pensées, même celles que nous n'osons peut-être pas formuler dans nos prières. On vient juste de poser les bases. Et à partir de là, on commence à monter. Et Paul commence à dire, Dieu peut faire tout ce que nous demandons et pensons. Dieu peut faire tout ce que nous demandons et pensons. Il possède en lui-même toutes les ressources. La mesure de nos pensées et de nos besoins n'est pas un problème pour lui. Il peut faire tout ce que nous pensons. Mais ce n'est pas tout à fait suffisant. L'apôtre Paul continue en disant, Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Sa mesure et ses ressources se situent dans l'exercice normal de ses capacités, au-delà du cercle, de ce que nous pouvons même concevoir. Il possède une ampleur de puissance, une ampleur de générosité qui dépasse et englobe tout ce que nous pouvons penser ou demander. Et c'est pour ça que Paul dit, Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Voilà, maintenant on a fini, on est au bout. Mais, une fois que Paul a dit cela, il se dit, je crois que je suis encore un peu juste. Il faut que j'ajoute encore autre chose, un autre petit quelque chose, la cerise sur le gâteau. Et la cerise sur le gâteau que Paul se dit que je dois encore ajouter, c'est un super superlatif qu'il forge, qu'il invente lui-même. Il est traduit, il peut faire infiniment plus que tout ce que nous pensons dans nos traductions. Mais littéralement, c'est encore plus que ça. Paul dit, Dieu peut faire hyper, extrêmement, au-delà de tout ce que nous pensons et imaginons. Pas besoin de développement supplémentaire. L'apôtre veut nous convaincre que c'est absolument sans limite. Ce que Dieu peut faire, il nous faut le concevoir avec cette ampleur-là. Il nous faut saisir que c'est juste vertigineux. Bien sûr, pour le dire, on a nos formules. Dieu est tout-puissant, Dieu est omniscient, Dieu domine sur tout, il est souverain. Mais Paul veut nous faire comprendre vraiment que ces formules possèdent chacune quelque chose de vertigineux. Dieu peut agir hyper, extrêmement, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est ce que nous dit l'apôtre. Alors s'il fallait nous libérer de l'angoisse, d'une pénurie quelconque, ou d'un Dieu qui soit en panne quelque part, voilà une réponse qui nous est donnée. Hyper, extrêmement, au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai rien, de rien. La formule est forte, elle est encourageante. Mais reconnaissons, il n'est pas facile de nous l'approprier. Et je voudrais relever trois obstacles que nous pouvons rencontrer devant cette belle et grande formule de l'apôtre. Le premier obstacle est la forme de la tournure. Comme je vous l'ai expliqué, c'est une forme qui multiplie les superlatifs. Et devant cette abondance de superlatifs, il est facile de se dire « c'est qu'une formule, ce n'est qu'un jeu de langage ». On connaît le texte alors, on le cite, on le traite mentalement comme une belle trouvaille de l'apôtre qui sonne bien, quelque chose qu'on peut dire, oui, sur Dieu par définition. Mais on n'accroche rien à la formule, on ne la prolonge pas. Elle reste un peu comme une formule très belle, mais suspendue au-dessus de nous. Et on continue sa route en connaissant la formule. Et c'est ici qu'il faut souligner que cette parole, si elle est forgée avec cette ampleur par l'apôtre Paul, est forgée comme cela, pas pour bien sonner à l'oreille, mais elle est formée, forgée comme cela, parce que Dieu est comme cela. Elle nous est donnée non pour nous chatouiller les oreilles, mais pour que nous y accrochions notre foi. Et c'est une première chose qu'il faut souligner par rapport au simple fait au danger de recevoir cela comme une simple formule très belle. Le deuxième obstacle par rapport à cette parole est un peu plus sérieux. C'est une limite que nous pouvons lui mettre. Elle dit ce que Dieu peut faire. Dieu peut faire, hyper, au-delà de tout. Mais elle ne nous renseigne pas sur ce que Dieu veut faire. Dieu peut, bien sûr, guérir, délivrer, intervenir de mille façons. Mais au bout du compte, ce qui est décisif, c'est ce qu'il veut faire. Ce qu'il choisit de faire. Et il est facile et un peu dangereux de mettre une grande distance entre ce que Dieu peut faire et ce que Dieu veut faire. Il peut même arriver que l'on conçoive un certain ressentiment à l'égard de Dieu parce qu'on a mis une telle distance. Dieu n'a pas voulu agir comme cela alors qu'il en avait toutes les capacités. Dieu... Il lui suffisait de dire un mot pour le faire et il ne l'a pas dit, ce mot. Ici ou là, nous pouvons laisser développer de l'incompréhension et peut-être même de l'aigreur à cet endroit parce qu'il y a un grand fossé entre ce que nous pensons que Dieu peut faire et ce que nous estimons qu'il veut faire. Je crois que c'est un obstacle que nous pouvons ressentir à l'écoute de cette parole. Je ne peux pas donner une réponse toute faite, mais s'il fallait donner une orientation pour penser cette chose, ce serait de relever le fait que Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit dans ce texte, nous invite à voir une issue glorieuse à la façon dont Dieu met en œuvre sa puissance et avec les choix qu'il fait. À lui soit la gloire, dit Paul. Lorsqu'on verra la façon dont Dieu met en œuvre, choisit de mettre en œuvre tout ce qu'il peut mettre en œuvre, il n'y aura pas de frustration. À lui sera la gloire. Non pas à lui la confusion de ne pas avoir voulu utiliser plus efficacement ou plus largement sa parole, sa puissance, mais à lui soit la gloire. Et je crois que cette pensée est saine pour nous orienter dans notre façon de concevoir le rapport entre ce que Dieu peut faire et ce que Dieu veut faire. Les deux manifesteront ensemble la gloire de Dieu. Un troisième obstacle est qu'il est facile quand même d'enfermer ce texte, malgré tout, dans nos cercles de pensée. Nous attendons de cette promesse que Dieu peut agir en toute chose. Nous attendons vraiment que Dieu mette ses ressources inouïes, quand même plus ou moins, au service de ce que nous lui demandons ou nous lui pensons. Nous pensons qu'il serait normal que les plus de Dieu soient quand même dans la ligne de ce que nous voulons et de ce que nous demandons. Qu'ils apportent un bonus à notre demande. Ça, c'est une manière dont on peut recevoir ce texte aussi. Paul nous dit, les ressources de Dieu sont hyper extrêmement au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ce qui implique que souvent, nous voyons les choses dans notre petite dimension, alors que Dieu les insère dans quelque chose de bien plus grand, hyper au-delà de ce que nous pensons. Et il nous faut avoir cette humilité et à la fois cette confiance que le champ de pensée de Dieu, avec tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il maîtrise, est infiniment plus large que le petit faisceau de ce que nous pensons ou demandons. Nous ne sommes pas la mesure de toute chose. C'est aussi quelque chose que nous apprend cette formule et un danger qu'il faut dépasser. Alors comment résumer tout cela positivement ? Je vous propose une formule qui, me semble-t-il, permet de faire la synthèse. Que pouvons-nous attendre de ce que Dieu, de l'action de Dieu, de ce que Dieu peut accomplir ? Dieu, me semble-t-il, pour nous dire, Dieu a l'hyperpuissance de ses desseins. Dieu a l'hyperpuissance de ses desseins. Là, je pense que c'est une pensée, une formule qui peut nous accompagner. Nous restons humbles en disant cela. Dieu a l'hyperpuissance de ses desseins à lui. Mais nous ne jouons pas la volonté de Dieu contre sa puissance. Nous les unissons. Il a l'hyperpuissance de ses desseins. Et cela nous fonde à une grande confiance. Dieu a l'hyperpuissance de ses desseins. Rien ne pourra l'empêcher de les accomplir. Il ne manquera de rien, ni de puissance, ni de sagesse, ni de ressources. Mais cette confiance se traduira inévitablement en attente, parce que nous attendons de les voir, ces desseins, ces projets, dans leur ampleur réelle, dans leur aboutissement. Et Paul nous oriente dans cette dimension en incluant dans cette perspective toutes les générations, au siècle des siècles. Chaque génération, chaque vie, chaque tranche de vie n'est qu'une petite partie de ce que Dieu fait et de ce que Dieu fera. Nous attendons de contempler l'aboutissement final. Mais Dieu a l'hyperpuissance de ses desseins. C'est avec cela que j'ai envie de marcher, avec cette pensée que j'ai envie de marcher pour cette année qui s'ouvre. Car me semble-t-il, c'est là ce que l'apôtre veut nous insuffler comme base, comme ressource, comme perspective. Dieu a l'hyperpuissance de ses desseins. Cette formule donne le cadre et j'espère qu'elle le fait adéquatement. Mais Paul ajoute une autre précision qui vaut la peine de relever. Cette puissance, nous dit-il, elle est aussi à l'œuvre en nous. C'est une puissance à l'œuvre en nous. À celui qui, dit-il, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment plus que ce que nous pensons et demandons, à lui soit la gloire. Paul a soin de ne pas cantonner ce que Dieu peut faire dans les hautes sphères de son dessein global. Paul est concret. Cette puissance, elle est aussi à l'œuvre en nous. De nouveau, il faut veiller aux mauvaises compréhensions. Paul ne nous dit pas que la mesure de la puissance de Dieu, c'est ce qui se passe en nous. C'est que la mesure de la puissance de Dieu, c'est ce que nous en discernons dans notre vie. Il ne part pas de notre expérience pour dire « Ah, c'est fabuleux ce que tu vis, ça dépasse tout ce que l'on peut imaginer ou penser. » Paul fait juste l'inverse. Il a en tête cette hyperpuissance de Dieu à réaliser tous ses projets et il nous dit « Cette puissance, elle est aussi pour vous. Elle sera à l'œuvre dans votre vie. Il y a là une source à laquelle vous pouvez puiser. » Cette pensée, Paul l'a déjà un peu exprimée, juste un peu quelques versets plus haut. Au verset 16, il dit que Dieu vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Être fortifié, c'est être rejoint dans notre manque de ressources. C'est être rejoint parfois dans nos incertitudes face à ce qui est devant nous. C'est être rejoint dans les progrès que nous avons encore à faire. Mais Paul nous rappelle ici que Dieu nous rejoint, il est proche, il est là en nous par son esprit, et il est là justement pour nous renouveler quand nous avons besoin de renouvellement. Il est là aussi pour nous changer, là où nous avons besoin d'être changés. Sa puissance, sa toute-puissance, n'est pas juste une toute-puissance générale pour réaliser son grand projet. C'est aussi une puissance de proximité, une puissance de terrain, là où il le faut, quand il le faut, comme il le faut. Alors cela ne nous rend pas tout-puissants, nous, comme des supermen invincibles. Cela nous fortifie. Cela nous fortifie. Et en nous aussi, cette puissance peut faire plus que ce que nous demandons ou pensons. Et c'est une invitation à avoir recours à Dieu au fil de nos besoins, au fil de notre vie de chaque jour. Paul souligne que cette puissance, elle agit en nous. Elle veut fortifier notre être intérieur, nous dit-il. Il s'agit donc de nous, de notre personne, de notre manière d'appréhender les choses, de notre capacité à faire face aux choses. J'ai l'impression que souvent, nous demandons à Dieu d'utiliser surtout sa puissance pour changer ce qui est autour de nous. Seigneur, change mes circonstances, Seigneur, arrange tout ce qui se passe autour de moi. Paul nous rappelle ici que Dieu peut aussi nous renouveler, nous, puissamment. Ce qui signifie que, au lieu de nous épargner telle ou telle situation, Dieu peut vouloir préférer nous fortifier pour nous permettre de la traverser et de l'assumer. Et nous aurons grandi, nous aurons progressé, nous aurons gagné quelque chose de durable. J'aime aussi cette idée en pensant à l'année qui s'ouvre. Il y aura chaque jour une source à laquelle je peux être fortifié. Et Paul suggère fortement que cette source bienfaisante, efficace, passe par la relation que j'entretiens avec le Christ, car dans un amour qui est appelé à avoir de plus en plus de force et de profondeur. Mais avec tout cela, est-ce que nous ne restons pas encore un peu dans les grandes idées qui font du bien, mais les grandes idées quand même? Paul a soin de nous laisser un autre repère, c'est le dernier point que j'aimerais noter, un repère essentiel et important comme garant. Ce repère qui concerne ce que Dieu peut faire, c'est Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, nous dit-il. L'Église et Jésus-Christ ne sont pas sur le même plan. L'Église est bénéficiaire, Jésus-Christ, lui, est celui qui apporte les bienfaits, celui qui est acteur. Pourquoi mentionner Jésus-Christ ici? ce qui lui revient à lui. Il lui reviendra à lui de manifester toute la grandeur de ce que Dieu peut accomplir. C'est ce qu'il fera lorsqu'il reviendra du ciel pour faire toutes choses nouvelles sur la terre, après avoir jugé le mal et anéanti la mort pour toujours. Et c'est quelque chose que nous attendons. Nous attendons vraiment que en Jésus-Christ se manifeste pleinement toute la gloire et de la puissance de Dieu dans l'aboutissement de ses desseins. Mais en Jésus-Christ, déjà, ce que Dieu peut accomplir s'est manifesté et a été attesté dans l'histoire. Et ça, ce n'est pas simplement une idée encourageante, mais c'est vraiment une action souveraine de la force de Dieu que Dieu a mise en œuvre dans le Christ. Et quand l'a-t-il fait ? Il l'a fait lorsqu'il a ressuscité le Christ des morts, en le faisant asseoir à la droite de Dieu dans les lieux célestes au-dessus de tout pouvoir. Où voit-on vraiment ce que Dieu peut réaliser ? C'est dans la résurrection de Jésus. Cette résurrection de Jésus, ce n'est pas un simple acte isolé, une espèce d'îlot perdu au milieu de l'océan du dessein impénétrable de Dieu. Non, la résurrection de Jésus, c'est le modèle même de ce que Dieu peut accomplir lorsqu'il met en œuvre sa puissance. Elle est pour nous ce à quoi il faut regarder pour savoir ce que Dieu a en réserve pour nous, pour savoir ce que Dieu peut faire, ce que Dieu aime faire. Ce que le Père a fait au corps de Jésus-Christ en le ressuscitant des morts, c'est juste l'inauguration et le modèle de ce qu'il tient en réserve pour toute sa création. Et ça, ce n'est pas juste une grande idée qu'on peut dire comme cela pour se faire plaisir ou pour se consoler. Ça s'est passé. Cela s'est manifesté. C'est cette puissance-là, puissance de vie, de résurrection, qui est venue vers nous comme puissance d'amour, comme puissance de salut, comme puissance de renouvellement qui s'est mise en marche. Ce que Dieu peut faire a été manifesté. A été manifesté là, et c'est le modèle de ce qu'il peut continuer de faire, de ce qu'il va continuer de faire, de ce qu'il achèvera de faire. Alors comment, dans quel état d'esprit allons-nous aborder cette rentrée et cette nouvelle année ? Quelle pensée, quelle perspective vont animer notre cœur et fortifier nos mains ? J'aimerais nous inviter à nous laisser régulièrement être renouvelés par la perspective de ce que Dieu peut accomplir. Nous allons cette année nous rappeler ce que Dieu a accompli pour notre Église en évoquant les 125 ans de son histoire. C'est une belle perspective, une tranche de vie à découvrir et j'espère qu'elle nous stimulera, qu'elle nous renouvellera dans notre marche. Mais nous aurons aussi à faire face à toutes sortes d'événements, de situations à affronter, de réalités personnelles à vivre. J'aimerais que nous restions toujours en éveil et toujours curieux de voir dans ce que nous vivons, dans ce que nous traversons, ce que Dieu pourra accomplir. Restons curieux de ce que Dieu pourra accomplir. Restons en attente, en espérance de ce que Dieu pourra accomplir. Dieu possède, n'en doutons pas, l'hyperpuissance de réaliser tous ses desseins, chacun de ses plans. Qu'allons-nous attendre de lui ? Qu'allons-nous oser entreprendre, fort de cette certitude, que Dieu a l'hyperpuissance de tous ses desseins ? Dieu veut déployer sa puissance en nous pour nous fortifier. Quel recours aurons-nous auprès de lui ? Qu'allons-nous lui demander de changer concrètement en nous pendant cette année qui vient ? Il veut agir en nous. C'est le terrain de son œuvre. Qu'allons-nous lui demander ? Qu'allons-nous attendre de lui pour cette année ? Ce que Dieu peut faire, il l'a magnifiquement illustré en Jésus-Christ. Quelle confiance va-t-il instiller dans notre cœur ? Quel zèle pour annoncer cette bonne nouvelle que Jésus-Christ nous apporte. Bonne nouvelle de salut, bonne nouvelle de pardon, bonne nouvelle d'espérance. Comment, au cours de cette année qui s'ouvre, allons-nous devenir de mieux en mieux des hommes et des femmes fermes, inébranlables? Progressons toujours dans l'œuvre du Seigneur en sachant que notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Dieu a l'hyperpuissance de réaliser ses desseins. Attendons dans un esprit de foi qu'il se manifeste encore en nous. Il se manifeste encore pour nous. Il se manifeste encore parmi nous. Amen.